بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 16 du mois Shawwal de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 4 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble ce cours sur les fondements de la sunna de l'imam Ahmad avec le commentaire de l'imam de notre époque de Al-Sunna wal-Jama'a, Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, on s'était arrêté sur ce paragraphe dans lequel l'imam Ahmad a parlé d'un sujet qu'il a déjà abordé, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera de vive voix, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, à ses serviteurs, le jour de la résurrection. Et ça suit le point duquel on a déjà parlé, la parole d'Allah et la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a par rapport à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en résumé, Allah, subhanahu wa ta'ala, parle réellement. Et le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec laquelle il a parlé réellement. Et il l'a entendu de lui, Jibril. Ça veut dire que c'est une parole qu'on entend. Donc, avec des lettres et des mots, et des phrases, et avec un son, ça s'entend. Lakin, dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons la règle d'or que vous ne devez jamais oublier, qui est la parole d'Allah, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Pourquoi les savants disent que ce verset représente la règle d'or dans le domaine des noms et des attributs, qui est une des trois catégories de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce verset résume la position de Ahl-Sunna wal-Jama'a par rapport à cette catégorie de Tawhid, qui est une des catégories les plus importantes et qui est une grande porte de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même c'est la plus grande porte de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande porte de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la deuxième catégorie qui est l'unicité de la seigneurie. Et la troisième catégorie, au sujet de laquelle il y a eu le plus de divergences et de lacunes chez les peuples et les nations, et même dans notre communauté, c'est la mise en pratique de ces deux catégories. Et c'est le côté pratique de Tawhid, c'est-à-dire cette divinité que tu as connue par sa seigneurie, par ses noms et ses attributs, tu vas lui vouer un culte exclusif, car elle est la seule qui le mérite, le seul qui mérite d'être adoration, le seul qui mérite d'être adoré, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a donné la vie, c'est celui qui t'a octroyé tous les bienfaits dont tu jouis. Et le plus grand de ces bienfaits, d'une manière absolue, c'est le bienfait de l'islam. Le bienfait de l'islam. L'islam. Et dans l'islam, le plus grand bienfait, d'une manière absolue, c'est d'être dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, avec nos faiblesses, avec nos manquements, au niveau du comportement, au niveau de la qualité de nos adorations, au niveau de notre concentration dans notre salat et dans tous les domaines. Lakin, alhamdulillah, c'est une ni'ma immense que tu sois guidé dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et que tu suives l'élite de cette communauté dans leur compréhension. Même si tu ne leur arrives pas dans la qualité de leurs adorations. Lakin, d'être sur la même voie que eux, et de comprendre les textes comme ils les ont compris, et non pas comme ils étaient compris par l'Asha'ira, et par le Mu'tazila, et par le Jahmiya, tous ces égarés au niveau de la croyance. Ni comprendre et mettre en pratique ces adorations comme ils étaient compris par Sofia, et par l'Ikhwan, et par Tablir, qui sont des formes différentes de sophisme. Donc ça, c'est une ni'ma immense. Et cette voie, faut qu'on sache, mes frères, que cette voie, c'est une voie infaillible. C'est la vérité à 100%. Et il n'y a pas de doute en cela. Lakin, est-ce que la personne et l'individu qui prétend suivre cette voie est infaillible? Non. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation et de la déviance. Personne n'est à l'abri, ni les grands savants, ni les chouyours, ni les tullab, ni l'awam, personne n'est à l'abri. Sauf celui qu'Allah a préservé. Donc la guidée est un pur bienfait d'Allah. Et de rester ferme sur cette guidée et jusqu'à rencontrer Allah, c'est un autre bienfait d'Allah sur nous. Qu'Allah nous l'accorde à tous. Donc l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, et surtout, ces choses-là sont très importantes, mes frères, de se les rappeler. Car nos salafs, ils avaient des assises où ils parlaient du cœur et de l'adoration du cœur. Et si on parle des adorations du cœur, on doit obligatoirement parler d'un des points les plus importants dans l'islam. Vous savez que le souci du croyant dans sa vie, parmi ses plus grands soucis, il en a deux que je vais citer ici. Deux des plus grands soucis du croyant. C'est pas quand est-ce que son salaire va tomber, quand est-ce qu'il aura, il achètera une maison, quand est-ce. Ses plus grands soucis, d'abord, c'est l'acceptation de ses œuvres qu'il a accomplies pour Allah, conformément à la sunna du prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam. Il a fait de son mieux et de son maximum pour être sincère et pour être conforme à la sunna. Il espère l'acceptation de ses adorations. Est-ce que ça a été accepté de lui? Surtout après ce mois béni de Ramadan, où le bien a été facilité, où les shayatines ont été enchaînées, où les portes du paradis ont été ouvertes, et les portes de l'enfer ont été fermées. Un mois durant lequel Allah, chaque jour, affranchit des serviteurs du feu de l'enfer. Est-ce que ces adorations ont été acceptées? Ça, c'est une question qu'on doit toujours se poser. C'est pas parce que tu as fait que ça a été accepté. Il y en a, leur souci, c'est uniquement de faire le bien. Mais c'est pas parce que tu l'as fait que ça a été accepté. C'est pas obligé. Allah musta'an. Et le deuxième souci, la deuxième plus grande préoccupation du croyant, c'est al-thabat, le raffermissement, la constance, rester constant sur toutes ces adorations qu'Allah t'a facilitées durant ce mois de Ramadan. Qiyam al-layl, c'est pas que pendant Ramadan. Jeûner le jour, c'est pas que pendant Ramadan. Faire des aumônes, c'est pas que pendant Ramadan. Lire le Coran, c'est pas que pendant Ramadan. Celui qui adore Allah, il doit l'adorer durant toute l'année. Donc, ça c'est un des plus grands soucis du croyant. C'est al-thabat, le raffermissement. Et comme vous savez, ça a été rapporté de plusieurs compagnons, d'un grand nombre de compagnons. Que du'a que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus, c'était « Ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik ». Le Nabi alayhi wa sallam, la chose qu'il demandait le plus à Allah, en sachant qu'il est le prophète d'Allah, qu'il est le messager d'Allah, qu'il est la meilleure créature d'Allah, qu'il est celui qui reçoit la révélation matin et soir. alayhi salatu wassalam. Et malgré cela, la chose qu'il demandait le plus à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-thabat. Ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik. Et ça, c'était pas uniquement réservé au prophète alayhi salatu wassalam. Sahaba, ils prennent le prophète alayhi salatu wassalam comme exemple et modèle dans tous les domaines. Et que dire de ces domaines qui sont les plus importants dans l'islam? Il y en a les choses qui sont directement en lien avec le cœur. Car demander à Allah le raffermissement, c'est de réaliser que ton raffermissement n'est possible qu'avec la permission d'Allah. Faut avoir ce sentiment de dépendance fort d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a besoin de lui dans toute chose et surtout dans les, yani, que dire des choses les plus importantes dans la religion, de rester ferme sur la vérité, rester ferme sur le manhaj salafi, rester ferme sur la croyance des pieux prédécesseurs, et vous voyez combien de personnes changent chaque jour dans votre entourage, dans ceux qui sont sur les réseaux sociaux, dans les prêcheurs, combien de gens changent. Ils avaient des positions hier, aujourd'hui ils en ont d'autres. Hada indalla ala shay inma yadull ala ahammiyat su'al Allah azza wa jalla al-thabat. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. C'est pour ça Anas radiyallahu an, il est rapporté de lui. Et Anas, vous savez tous qui est Anas ibn Malik. Celui qui était au service du prophète alayhi sallam pendant 10 ans. Il rentrait chez lui, il sortait comme il voulait, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la puberté, où il ne pouvait plus accéder aux endroits où il y avait les épouses du prophète alayhi sallam. Donc il est resté au service du prophète alayhi sallam durant 10 ans, alayhi sallam, radiyallahu anhu arda. Ce compagnon qui avait un très grand amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et malgré cela, un jour, il lui a posé la question. Il lui a dit au messager d'Allah, « Nous avons cru en la vérité avec laquelle tu as été envoyé et nous t'avons suivi. Est-ce que tu crains pour nous, après cela, la déviance ?» Il a dit oui. Il a dit « Na'am, fa'innal quluba bayna usbu'ayni min asabi'ir rahmani yuqallibuha » Car les cœurs sont entre deux doigts d'Allah. Il les tourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Il raffermit qui il veut avec sa générosité et sa bonté et sa miséricorde. Il égare qui il veut avec son équité et sa justice. Donc c'était aussi la guidée des compagnons. Et c'est la guidée de tous les savants et de tous les pieux prédécesseurs. Tous ceux qui les ont suivis, jusqu'à notre époque. C'est ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Allah azza wa jal, vous lisez dans le Coran comme il a décrit l'ulama al-rasikhin. Il a dit, وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent les savants qui sont bien ancrés dans la science? Qu'est-ce qu'ils demandent à Allah? ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ils disent, Seigneur, ربنا لا تزغ قلوبنا, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Ils ont peur de la déviance après la guidée. Car ya ikhwa, la déviance après la guidée, elle est pire que la déviance avant d'avoir connu la guidée. Allah t'a donné des ni'am immenses à leur tête la guidée. C'est pour ça la déviance après la guidée, elle est beaucoup plus dangereuse que celui qui a toujours été dans la déviance. Nasalullah salam al-afiyah. Et parmi les choses qui sont les plus grandes causes du raffermissement, c'est d'abord cette adoration du cœur, de savoir avec ton cœur que tu ne peux être raffermi qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la plus grande cause du raffermissement. Et parmi les plus grandes causes de la déviance, de penser, et même si on ne le dit pas, là, ne vous trouvez pas un musulman qui dit « Moi, je n'ai pas besoin d'Allah dans la guidée. » Lakin, ses agissements, ses actes, ses propos peuvent l'indiquer. Et qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, le Nabi sallam, il disait dans le dua, « Wala takilni ila nafsi, tarfata ayn. » Ne me remets pas à ma personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Si Allah il t'abandonne le temps d'un clin d'œil, tu seras égaré et tu périras tous. Et aussi de rester attaché au livre d'Allah, surtout après ce mois de le Coran, de rester attaché à la lecture de le Coran. Tu dois lire une partie de le Coran tous les jours et de rester en lien avec le Coran. Et de rester lié aux hommes de science, de confiance, et de n'écouter que les savants salafis. Et si jamais tu fais l'erreur d'entendre une choubha ou une chose qui nuit à la réputation des hommes de science, de revenir directement vers les sources pour dissiper cette choubha et comprendre la vérité. Et aussi de multiplier les adorations. Car les adorations, surtout durant les temps des troubles et des temps où shahawat sont multiples et nombreuses et les shubuhat également sont dangereuses et propagées partout. Et ikhwa wallahi, on est à une époque d'un danger incroyable. L'ami, à notre époque, il entend des choses gravissimes, des shubuhat comme des montagnes. Tout en étant assis chez lui, prend son téléphone, il regarde une première vidéo de Cheikh Uthaymeen, la deuxième, il va écouter quelqu'un qui va lui donner une chouba, peut-être qu'il va le faire douter de sa foi, alors qu'il n'a pas les outils pour contrer cette chouba. Et peut-être qu'il est même ignorant de comment doit se comporter le croyant face à des ambiguïtés si jamais il les entend. Et il va rester avec cette chouba, elle va le travailler pendant des années. والله المستعان نسأل الله السلام والعافية نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات دونك الإمام أحمد دي وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به دونك nous croyons qu'Allah سبحانه وتعالى parlera aux serviteurs le jour de la résurrection sans qu'il y ait entre lui et eux d'intermédiaire. At-Turjuman, c'est l'interprète. Yani, sans qu'il y ait d'intermédiaire entre Allah et les serviteurs. Ils parleront directement à Allah, et Allah leur parlera directement ce jour-là. Nous devons avoir la foi en cela et y croire. Comme dans l'explication de Cheikh Rabi', il a dit, comme ça a été rapporté du prophète alayhi sallam dans le hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, le Nabi alayhi sallam a dit « Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laysa baynahu wa baynahu turjuman. » Il a dit « Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous sans qu'il parle à son Seigneur de vive voix, directement, sans qu'il y ait entre lui et son Seigneur d'intermédiaire, d'interprète. » rapporté dans les deux authentiques. Il dit, et vous lisez dans le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adressera à ses serviteurs le jour de la résurrection, il va les appeler. Allah a dit, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le jour où il les appellera et leur dira, donc appeler, c'est quelqu'un à distance. On appelle quelqu'un à distance. Donc Allah, il va les appeler. C'est-à-dire, il va parler. Ils vont l'entendre de loin. Il les appellera, il leur dira, « Où sont ces idoles qui, selon vous, prétention, selon vos prétentions, étaient en droit d'être associés à mon adoration. Allah les appellera avec ce discours. Subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres versets, dans le même sens. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Et Cheikh Rabi a dit, l'appel ne se fait qu'avec des lettres et des paroles et un son. Allah appellera les gens du paradis. Il leur dira, هَلْ رَضِيْتُمْ هَلْ أَزِيدُكُمْ, comme dans le hadith, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous voulez que je vous donne davantage? فَيُكَلِّمُ وَيَتَكَلَّمُ. Donc Allah parle et appelle les individus. Et il appelle les gens sans qu'il y ait d'intermédiaire entre lui et eux. Et il leur parle. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par la parole. Il parle. Et ça, ça fait partie de ses attributs. La parole, c'est un attribut de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours parlé, subhanahu wa ta'ala. Et la parole a toujours fait partie des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce point de vue, c'est un attribut de l'essence d'Allah. Également, la parole est un attribut des actions d'Allah. Car Allah, il parle quand il veut, avec qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah a parlé avec Moussa. Allah a parlé avec le Coran. Donc Allah parle avec Jibril quand il veut qu'il transmette un message de sa part. Allah, il parle quand il veut, avec la parole qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ce genre d'attributs, on les appelle sifat fi'liya, des attributs des actions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sifat dhatiya, les attributs de l'essence, c'est les attributs par lesquels Allah a toujours été décrit. Comme la science, comme l'omnipotence, comme la vie, et ainsi de suite. Et c'est un attribut de perfection. La parole est un attribut de perfection. Et inversement, le mutisme, d'être muet, ne pas parler, ou la surdité, d'être sourd, ne pas entendre, est un attribut d'imperfection. C'est un défaut. Et Allah est décrit par tous les attributs de la perfection, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Comme vous savez, on ne rentre pas dans le comment. Lakin, on sait qu'Allah parle réellement. Ce n'est pas une métaphore. C'est pas il parle en lui-même, comme disent l'Asha'ira. Et après, il révèle ses sens en Jibril. L'Asha'ira, il ne croit pas qu'Allah parle. Ne soyez pas leurrés par le fait qu'ils disent Allah parle. Si vous entendez un Ash'ari, comme cet égaré de Mohamed Nadir, ce Tunisien originaire de Paris qui vit actuellement au Maroc, qui étudie chez un très grand Ash'ari qui s'appelle Mouloud Sariri, qui dénigre Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et qui l'accuse d'être un ignorant et d'avoir innové des règles dans l'Islam. Surtout au niveau des noms et des attributs que lui, il n'adhère pas à la méthode de Salaf. Il étudie auprès de lui. C'est un grand égaré et un grand dangereux également pour les Français. Avant, on ne connaissait pas un prêcheur francophone qui appelle à l'Ash'ariya, qui appelle au soufisme. Yani ça, c'est quelque chose que... C'est un discours qu'on ne pouvait pas accepter avant en France. Là, aujourd'hui, vous trouvez pas mal de jeunes qui suivent ces tendances. D'où l'importance de réfuter ces égarés. Et ça, ça fait partie des devoirs des gens de science et des prêcheurs qui sont sur la sunna de dévoiler ces égarés. Yani, ne soyez pas leurrés par le fait qu'un Ash'ari vous dise « Allah parle » et le Coran, c'est la parole d'Allah. Car ce qu'il croit, parce qu'ils savent que ce discours ne passe pas encore. Si jamais ils disent le Coran, c'est pas la parole d'Allah, tu vas le rejeter avec tout ce qu'il dit. Lakin, il va te dire le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais comment Allah a parlé avec le Coran? Est-ce que Allah a parlé réellement avec le Coran? Il dit non. Ils appellent ça le kalam al-nafsi. Allah a parlé en lui. Yani, c'est une pensée. Le Coran, c'est une pensée d'Allah, ou là, quelque chose comme ça. Kalam nafsi. Et après, il l'a créé en une créature. Après, il diverge avec le Mu'tazila. Est-ce qu'il l'a créé dans un arbre, ou là, en Jibril, alayhi salam, ou là? Lakin, tous, ils s'accordent à dire que le Coran, ce n'est pas la parole réelle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'Asha'ira, l'Maturidiya, et le Mu'tazila, et tout le Jahmiya. Et Al-Sunnah, Al-Jama'a, tous s'accordent à dire que le Coran, c'est la parole d'Allah avec laquelle il a parlé réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et ça, on l'a vu d'une manière détaillée quand on a parlé de cette question. Tayyib. Donc la parole, c'est un attribut de perfection, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, Ibrahim alayhi salam, quand il s'est adressé à son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, « إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا » Pourquoi? Il lui a dit, « Oh mon père, il lui a dit, « Ô mon père, pourquoi t'adores ceux qui n'entendent pas et qui ne voient pas non plus et qui ne peuvent rien pour toi ?» Et ça, c'est des attributs de créature, pas des attributs d'une divinité. La divinité entend et voit tout, entend tout et voit tout et sait tout. Et elle, la divinité, elle est omnipotente, capable de toute chose. Et ça, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, également, Ibrahim alayhi salam, parmi les arguments qu'il a utilisés avec les adorateurs des idoles, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, « Fas'alouhum in kanu yantiqoun. »« Fas'alouhum in kanu yantiqoun. » Il leur a dit, « Interrogez-les si ils parlent. » Lakin, ces idoles et ces statues ne parlent pas. Et ça, ça veut dire que c'est un attribut de diminution. Ne pas parler. Lakin, Allah, il parle pas comme les hommes parlent. Il parle comme il convient à sa grandeur et sa majesté, avec des lettres et des mots et un son qu'on entend. Et dans d'autres versets. Ma lakum la tantekhoun. Quand Ibrahim également il s'est adressé aux idoles, il leur a dit Ma lakum la tantekhoun. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne parlez pas? Ensuite, il est passé à un deuxième point. C'est à quelle heure, Salat, chez vous?
C'est dans 1h30 à
17h45. Donc, on va voir le point suivant, qui concerne Al-Hawd, le bassin, et sa description. Donc ça aussi, ça fait partie des points de la croyance et des fondements de la foi. Et comme on a vu précédemment, la parole de l'imam Ahmed, tout point qui fait partie des fondements de la foi, dans tout point qui fait partie des fondements de la foi, il n'y a aucune divergence qui est tolérée. Et il n'y a même pas de divergence entre Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Ils sont unanimement d'accord sur la foi en ce point et en ce fondement. Et la seule divergence que vous allez trouver, c'est la divergence entre Al-Sunnah wal-Jama'a et les innovateurs. Car tous ceux qui n'adhèrent pas à la position de Al-Sunnah wal-Jama'a dans tous ces fondements que nous allons voir dans cette risala, c'est forcément des innovateurs. Et après l'innovation, ça peut arriver à la mécréance. Comme vous savez, il y a des bida'a mukaffira ou des bida'a ghayr mukaffira. Il y a des innovations qui ne font pas sortir de l'islam il y a des innovations qui font sortir carrément de l'islam. Nasallallahu alayhi wa sallam wa l'afi. Donc il dit, « وَالْإِمَانُ بِالْحَوْضِ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ عَلَى مَا صَحَّتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ انتهى كلامه رحمه الله. Donc il a dit que يعني, on doit avoir la foi au bassin du prophète عليه الصلاة والسلام et que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un bassin le jour de la résurrection, que sa communauté viendra boire de ce bassin, et que parmi les descriptions de ce bassin, et que sa longueur est égale à sa largeur, c'est un bassin, sa longueur est égale à sa largeur, et elle est d'une longueur de la marche d'un mois, masira tashahar, et que ses ustensiles, yani ses verres et ses coupes et ses pots et ses pichets, comme Allah dit dans le Coran, bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Donc les ustensiles de ce bassin, leur nombre, ils sont au nombre des étoiles du ciel, comme ça a été rapporté dans les hadiths authentiques. Donc, par rapport à ce point, mes frères, il n'y a pas de doute que les hadiths rapportés au sujet du bassin ont atteint le degré de tawatur. Tawatur, ça veut dire que ces hadiths sont rapportés d'un très grand nombre de rapporteurs, d'un très grand nombre de rapporteurs dans toutes les générations de la chaîne de transmission, jusqu'à arriver aux compagnons, un très grand nombre de compagnons, jusqu'à arriver au prophète alayhi salam. Et vous savez que ce genre de hadith qu'on appelle mutawatir, ils sont authentiques sans avoir besoin d'étudier la chaîne de transmission. Une fois qu'on démontre qu'il est mutawatir, on n'a pas besoin d'étudier sa chaîne de transmission. Car c'est inimaginable et c'est impossible qu'un grand nombre de personnes se mettent d'accord sur un mensonge et que ça arrive à toutes les générations jusqu'à notre époque. Et ça, tous les humains s'accordent sur cette vérité. À part les fous. Quelqu'un qui va renier et rejeter ça, c'est un fou. Lakin, tous les gens doués de sens, de bon sens, s'accordent sur cette vérité. Et ce qu'on étudie dans la science du hadith, c'est ce qu'on appelle hadith l'ahad. Amma al-mutawatir, il suffit de démontrer qu'il est mutawatir pour l'accepter et le considérer comme authentique. Mais le mutawatir, il n'y a pas énormément de hadith mutawatir. La majorité de l'ahadith sont des ahad qui n'atteint pas ce degré. Là, l'ahadith qui concerne ce point, ce sont en arrivé au degré de tawatur. Et c'est rapporté de plus de 50 compagnons. Les ahadith de l'haoud. Cheikh Rabi', dans son explication, il a dit, ça c'est parmi les croyances obligatoires pour chaque serviteur, pour chaque croyant. Et il a rappelé que ces hadiths ont atteint le degré de tawatur. Et que parmi les descriptions de ce bassin, c'est que sa longueur est égale à sa largeur. Et il est d'une marche d'un mois. C'est comme ça qu'ils estimaient la distance à l'époque. Et dans des hadiths authentiques, sa longueur est égale à sa largeur et elle est égale à la distance entre le Medina et Sana'a. Le Medina, la ville du prophète alayhi salam, qui s'appelait avant l'islam Yathrib, et Sana'a, et dans des hadiths, c'est précisé Sana'a de Sham. La ville très connue, c'est précisé Sana'a al-Yaman. C'est précisé Sana'a al-Yaman. La ville très connue au Yémen, qui est la capitale du Yémen, Sana'a, la ville de Sana'a. Donc c'est de cette distance-là. Et pourquoi il est précisé Sana'a, le Yémen? Parce qu'il y a une ville dans Cham qui s'appelle aussi Sana'a. Et dans d'autres hadiths, cette longueur, elle est comme la distance entre la ville de Ayla et la ville de Sana'a. La ville de Ayla, il y en a, ils disent que c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Lakin, les savants précisent qu'elle se trouve ou bien en Égypte ou là, entre l'Égypte et la Jordanie. Ils disent que c'est Madinat al-Aqaba aujourd'hui. Elle est proche de cette ville, l'Aqaba, en Jordanie. En tout cas, c'est pour s'imaginer la grandeur et l'immensité de ce bassin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le bassin est spécifique au prophète alayhi wa sallam ou tous les prophètes auront un bassin? Ça, c'est une question de divergence. Ceux qui authentifient le hadith comme Cheikh Al-Albani, dans lequel qui est rapporté de Samoura ibn Jundub radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi wa sallam a dit inna li kulli nabiyyin hawda wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan wa inni arju an akuna aktharahum waridatan. Donc il est rapporté dans ce hadith que le prophète alayhi wa sallam a dit chaque prophète aura un bassin. Et que les prophètes, ils vont se réjouir et se vanter du grand nombre de personnes de leur communauté qui viendront boire dans leur bassin. Et ensuite, Nabi Rasulallah a dit, et j'espère être celui qui aura le plus de suiveurs qui viendront boire dans son bassin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a concrétisé ce souhait du prophète, alayhi salatu wassalam. Car ses suiveurs seront les plus nombreux. Et pourquoi les prophètes, ils se réjouissent de ce bienfait d'Allah sur eux, d'avoir beaucoup de suiveurs, car ils vont avoir ça augmente leur récompense auprès d'Allah. Car le prophète aura la récompense de tous ses suiveurs durant toute leur vie. Car c'est lui qui nous a indiqué tout bien, qui nous rapproche d'Allah, et qui nous a mis en garde contre tout mal qui nous éloigne d'Allah. Donc, Nabi alayhi salam, il n'y a pas besoin que tu lui offres une umrah, ou que tu lui offres la récompense d'un hajj, ou que tu lui offres la récompense d'une sadaqa. Garde-la pour toi, tu en as plus besoin. Et lui, il va avoir la même récompense que toi dans tout ce que tu fais comme bien. Et la même récompense que toi dans tout ce que tu délaisses comme mal. Car c'est lui qui te l'a indiqué. Et s'il y a un homme qui t'indique le bien, il aura également la même chose. Ad-dallu 'ala al-khayri kafa'ilihi. Ad-dallu 'ala al-sharr wal-'iyadu billah kafa'ilihi. Celui qui indique le bien et l'a guidé pour les gens aura la même récompense que ceux qui l'accomplissent sans que ça diminue leur récompense. Et de même, celui qui leur indique le mal, il aura les mêmes péchés que ceux qui le suivent dans ce mal, comme ceux qui cherchent à salir l'image des hommes de science auprès des gens et les éloigner de l'ulama. Et parmi les bienfaits d'Allah sur un serviteur, c'est que ses péchés s'arrêtent avec sa mort. Et parmi les grands malheurs par lesquels peut être touché un serviteur, que ses péchés continuent après sa mort. Et ça, c'est dans le domaine de shahawat, des envies et des plaisirs, comme celui qui laisse des chansons, de la musique qui est écoutée après lui, ou celui qui a ouvert un centre de mixité, de danse, ou là, des choses comme ça, haram. Et dans le domaine des ambiguïtés de shubuat également, quelqu'un qui a laissé des égarements dans la religion et qui s'en suivit, comme quelqu'un qui a inventé tariqa intel et tariqa intel et l'égarement intel et sururiya et celui qui a inventé l'ikhwan, celui qui a inventé le tablir, leur péché continue. C'est pour ça un salaf, quand il lui a été reproché par quelqu'un qui n'avait pas la bonne compréhension, de dénigrer et de critiquer un autre homme de science qui n'était pas sur la sunna, il lui a dit, c'est pas entre parenthèses, il lui a dit, c'est pas correct qu'un homme de science dénigre un autre homme de science, parce que pour lui, il n'a pas de discernement, il n'a pas de furqan. Pour lui, c'est tous des hommes de science. Et c'est comme ça l'awam. Pour ça, normalement, il ne faut pas qu'on fasse rentrer l'ami dans ces choses-là. Il ne va pas comprendre. Tu l'orientes vers les hommes de science de la sunna. Lakin, surtout dans une première étape, comme a dit Cheikh Ubayd, rahimahullah. Amma, tu commences. Attention, il a déjà entendu qu'il y a une secte de mise en gardiste. Sa vie, il va se dire, ah, bah c'est eux. L'année, il n'a pas de discernement. C'est pour ça quand cet homme a fait ce reproche à ce grand savant parmi Salaf, je ne me rappelle pas lequel, wesh, Ayyub Sirtiani ou quelque chose comme ça, mais en tout cas un très grand imam parmi Salaf, qui était dur sur les innovateurs, et la dureté sur les innovateurs est une qualité avec la science, pas avec l'ignorance. Avec la science, avec l'ilm et l'équité. Non pas avec l'ignorance et l'injustice et les mensonges. C'est un mouchkelad. En tout cas, quand tu lui as reproché ça, il lui a dit « Malheur à toi, je suis meilleur pour eux que leurs parents, que leur mère et père, car j'empêche les gens de les suivre dans leur égarement et ainsi de multiplier leurs péchés. » Adieu l'intention avec laquelle l'homme de science réfute un égarement. Ce n'est pas pour s'élever au-dessus de celui qu'il réfute et pour montrer qu'il est meilleur. Si c'est ça son intention, il n'aura rien à Allah. Mais il le fait pour préserver la religion et aussi pour le bien de cet égaré, pour ne pas augmenter ses péchés. Lakin, ces choses-là doivent être pratiquées avec sagesse et avec science, et ainsi de suite. Et avec douceur aussi. Donc ça, c'est le Haoud. Maintenant, il y a une question très importante. Est-ce que le bassin, c'est la même chose que le Kawthar? Est-ce que le Kawthar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, « Inna a'atainaka al-Kawthar » Est-ce que c'est la même chose que le bassin? Ça, c'est un avis chez certains hommes de science. Lakin, l'avis juste que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a cité, et beaucoup de savants contemporains, et la plupart des savants de Salaf, comme l'imam Ibn Jarir Tabari, l'imam Ibn Kathir, c'est que le bassin et le Kawthar ne sont pas la même chose. Le Kawthar, c'est un nahr, c'est un fleuve. C'est une rivière dans le paradis. Et le Haoud, il est avant le paradis. Il est dans la terre du rassemblement. Fi ard al-mahshar. Et là aussi, est-ce que c'est avant Sirat ou après Sirat? L'avis le plus juste, qui est l'avis de la plupart des savants, c'est qu'il est avant Sirat, avant le pont. Car si c'était après Sirat, yani ces gens qui étaient repoussés, qui seront repoussés de l'Haoud du prophète, vous savez qu'il y a des gens de la communauté du prophète qui viendront pour boire de l'Haoud du prophète, et les anges vont les empêcher, ils vont les repousser. Et Nabi Sallam, il dira, ce sont mes compagnons, ou bien c'est des gens qui étaient des compagnons réellement du prophète, mais qui ont perdu ce titre, cet honorable titre de la compagnie du prophète à cause de leur apostasie après lui. Et ça se compte sur les bouts des doigts. Donc il y a des savants qui ont dit que c'est ça, ce sont ceux-là qui sont visés. Comme l'imam al-Bukhari. Il l'a rapporté de son cheikh. Et aussi rentre dans ces gens qui seront repoussés, les gens de l'innovation, ahlul ahwa et wal bid'a. Et ça, c'est ce que disent la plupart des savants. Également, ils rentrent dans ceux qui seront repoussés du bassin du prophète, et que les anges vont empêcher de boire du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils diront au prophète alayhi salatu wassalam, quand il va dire, mes compagnons, ils lui diront, innaka la tadri ma ahdathu min ba'dik. Enfin, le Nabi alayhi salam, il va dire, malheur à eux, qu'ils soient éloignés, suhqan suhqa, liman baddala wa ghayyar, pour ceux qui ont changé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qui ont innové dans la religion de l'islam. Et là, on voit le danger, une fois de plus, de l'innovation. Et qu'elle est plus grave que les péchés. Car l'innovation, elle change la religion. Contrairement au péché. Et l'innovation, elle se rapproche plus de shirk que des grands péchés. Il y en a le péché le plus grave, c'est al-shirk al-akbar. Ensuite, shirk al-asrar, ensuite le bid'a. Et ensuite, les grands péchés. Et ensuite, les petits péchés. Et le bid'a, elle est plus proche de shirk que des grands péchés. Car c'est un changement de la religion. Et donc, est-ce que le bassin, c'est la même chose que le kawthar? Ce qui est juste, et ce qui est l'avis de la plupart des savants, c'est que le bassin n'est pas la même chose que le kawthar. Le kawthar, c'est une rivière dans le paradis. Et le kawthar, il est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'y a que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui aura cette rivière dans le paradis. Nahrul kawthar. Par contre, le bassin, comme on a vu, pour ceux qui authentifient ce hadith, chaque prophète aura un bassin duquel sa communauté viendra boire. Et le bassin, il est avant le pont. Car s'il était après, ces gens qui seront repoussés du bassin n'arriveront pas au bassin. Ils tomberont déjà dans la fosse, dans la fossée de l'enfer. Une fossée. Vous savez, on a un problème avec une et un. Un fossé. Ils tomberont dans le fossé de l'enfer. L'enfer, c'est un fossé. Et ceux qui se trouveront le plus bas dans ce fossé de l'enfer, ce sont les hypocrites. Inna al-munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Dans le niveau le plus bas de l'enfer. Et ce qui est voulu par le munafiqin ici, c'est pas le nifaq al-amali, c'est le nifaq al-i'tiqadi. Celui qui montre aux gens qu'il est musulman, alors que pour lui, il n'est pas du tout musulman. C'est juste pour préserver des intérêts, ou là pour épouser une femme, ou là pour une raison mondaine. Alors que dans son cœur, il ne croit pas du tout en l'islam. C'est cette hypocrisie qui évolue. Et l'autre hypocrisie qu'on appelle nifaq al-amali, faut pas la minimiser sa gravité. Car elle conduit vers cette grande hypocrisie. Quand tu parles de toujours dire la vérité, quand tu donnes une promesse de toujours la respecter, quand tu t'engages, tu respectes tes engagements. Et si tu es un différent avec une personne, muslim ou kafir, que tu sois juste et que tu reconnaisses quand tu as tort et quand tu t'es trompé, et ne pas chercher seulement à dominer ton adversaire et avoir la dernière parole. Car ça fait partie des caractéristiques de le munafiqin. Le croyant, quand il se trompe, il reconnaît son erreur. Il ne va pas s'entêter et s'obstiner dans l'égarement juste pour ne pas montrer qu'il s'est trompé. Qu'Allah nous facilite d'être ainsi. Et donc, ce bassin, il est alimenté avec l'eau qui vient de l'Kawthar, du paradis, à travers deux conduits, deux gouttières ou là deux canaux qui versent l'eau de l'Kawthar, de la rivière de l'Kawthar, dans le bassin. Et une de ces gouttières, elle est en or, et la deuxième, elle est en argent. Tout ça, c'est rapporté dans le hadith authentique. Et les ustensiles, les verres et les les verres et les coupes de ce Haoud, leur nombre il est plus grand que le nombre des étoiles du ciel. Ça aussi c'est rapporté dans le hadith authentique. Et l'eau de ce Haoud, de ce bassin, elle est plus blanche que le lait. Et elle est plus sucrée et délicieuse que le miel. Et son parfum et son odeur, elle est meilleure que le parfum du musc. Celui qui en boit une fois de ce bassin, il ne sera plus jamais assoiffé. Et celui qui boit une fois de ce bassin, jamais son visage ne sera noirci. Alhamdulillah, il sera sauvé. C'est-à-dire, la na'lash, ça c'est rapporté aussi, ça c'est une faïda précieuse, que son visage ne sera jamais noirci. Comme vous savez, les visages des mécréants seront noircis dans l'au-delà. Et également les visages des innovateurs. Et les innovateurs seront repoussés de ce bassin. Et donc, son visage ne sera jamais noirci. Et ça, c'est également parmi les éléments qui confirment que les innovateurs rentrent également avec les apostats dans le nombre de ceux qui seront repoussés du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà mes frères, en résumé, par rapport à ce point, on va laisser pour la prochaine rencontre, incha'Allah ta'ala, le point de al-qabr, la tombe, le monde tombal, et ses délices et ses supplices. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.